Il est 8h42 minutes, Mathieu Roy. Bonjour.
Bon lundi, Louis.
Bon, continuons la saga TikTok. Finalement, ça va-tu rester ou ça restera pas?
Oui, c'est une bonne question. Et si vous débarquez sur la planète web, sachez que TikTok, c'est une application de réseautage, un peu à la manière d'Instagram ou Facebook, mais où on partage de très courtes vidéos. C'est vraiment très naïf, c'est drôle. Mm-hmm. C'est souvent de la danse, du lip-sync. Et je dois avouer que c'est rarement menaçant ou encore controversé. Ce qui est intéressant dans TikTok, c'est que c'est une belle plateforme aussi de création parce qu'il y a beaucoup d'outils justement pour modifier les vidéos, pour créer des vidéos. Donc, on met vraiment des choses qui sont surprenantes. Là, on peut ajouter des filtres, on peut mettre des effets, on peut faire de l'édition aussi quand même assez étonnante dans la mesure où on fait ça sur un simple téléphone.
Oui.
Et là, donc, les États-Unis sont partis en guerre contre TikTok. Pas parce qu'on ne veut pas voir les gens danser, loin de là. C'est que TikTok appartient à une compagnie ByteDance et qui est une propriété chinoise. Donc, c'est là, évidemment, que le bas blesse parce qu'on a peur de ce que TikTok fait avec les données privées des utilisateurs. Donc, on craint l'espèce de partage de ces données-là avec les autorités chinoises, avec le gouvernement chinois. La principale crainte des États-Unis, c'est pas qu'est-ce que nos enfants peuvent voir sur TikTok, c'est plutôt qu'est-ce que TikTok peut savoir de nous ou encore de nos enfants.
Oui.
Ce qui fait que Donald Trump, donc, veut la bannir carrément, mais là, ou encore la forcer à vendre ses intérêts américains à une compagnie américaine. Donc, aux États-Unis, ça serait une compagnie américaine qui pourrait donc racheter TikTok. Et pour la toute première fois, Microsoft a confirmé que les discussions exploratoires se poursuivent dans l'achat de TikTok pour les États-Unis. C'est la première fois que Microsoft confirme qu'il y a des conversations en ce sens-là.
Mais moi, il semble-t-il que c'est extrêmement populaire. Mais toi, as-tu un compte TikTok?
J'ai pas un compte TikTok. J'ai ouvert l'application et je te jure, Louis, là, c'est une véritable drogue. Là. Je comprends qu'on soit un peu accro parce que, je veux dire, on peut comme ça défiler pendant de longues minutes. Première chose, tu sais, c'est que ça fait 15, 20, 30 minutes que là, on te propose du contenu, parfois qui va t'intéresser, parfois pas, mais évidemment, en créant ton compte, ben, ton contenu devient de plus en plus ciblé, ça c'est sûr et certain, et beaucoup plus pertinent. Là.
OK. Bon, juillet a été un mois où la réalité virtuelle a gagné en popularité.
Oui, et on dit que c'est pas seulement à cause de la pandémie, mais parce qu'on arrive à un point extrêmement intéressant dans, je dirais, la courbe de vie de la réalité virtuelle. Ces espèces de casques qui vous permettent de vous plonger dans un environnement complètement vidéoludique. Tantôt, c'est de la vidéo en 360, mais c'est aussi des jeux vidéo qui deviennent de plus en plus raffinés et très intéressants. Il y a des jeux qui, dans le mois de juillet, ont gagné en popularité, des jeux qui sont très bien faits. Je pense, entre autres, à Iron Man, ce super-héros-là. Bien, on peut se plonger comme ça dans son espèce de casque qui nous permet de voir un peu là, à la manière de Terminator ou carrément de Iron Man, comme dans le film, plein d'informations et de vivre des aventures. Et moi, j'ai parlé avec Bertrand Neveu, qui est cadre ingénieur senior chez Apple. Il travaille notamment sur la réalité virtuelle et augmentée.
Oui.
J'ai demandé pourquoi est-ce que le mois de juillet 2020 a été si populaire en matière de réalité virtuelle. On peut l'entendre.
C'est qu'on a atteint une masse critique de casques faciles à utiliser. Les rumeurs disent qu'il y a au moins 1 million d'Oculus Quest qui ont été vendus et Sony a annoncé qu'ils ont dépassé la marque des 5 millions de casques.
Donc là, plus il y a de casques, évidemment, plus il y a de plateformes, plus ça devient intéressant pour les développeurs. Là.
Ouais. Exact. Et là, je me suis posé la question, comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de jeux que ça? Parce qu'on joue déjà à des jeux à la première personne, c'est-à-dire un jeu où la caméra est directement dans les yeux, si on veut, du personnage. Ce qui fait que sur un écran, on peut bouger à gauche, à droite, en haut, en bas. Il me semble qu'il n'y a qu'un pas à faire pour transformer ça en un jeu adapté à la réalité virtuelle. Évidemment, c'était une question bien naïve à laquelle Bertrand Neveu avait une réponse très intéressante. Écoute ça.
C'est que c'est pas aussi simple que ça de convertir un jeu qui a été pensé pour un écran d'ordinateur en VR. Par exemple, le champ visuel est beaucoup plus grand en réalité virtuelle. Tous les objets doivent être à grandeur réaliste. Les mouvements doivent se faire différemment. Si on fait des mouvements rapides sur un écran pour se sentir plus dans l'action, si on fait la même chose en réalité virtuelle, ça donne des maux de cœur. Donc, il y a différentes dynamiques de mouvement, par exemple la téléportation.
Et là, c'est drôle parce qu'il parle de téléportation oui. parce que si vous marchez en réalité virtuelle, évidemment, mm-hmm. votre appartement ou votre pièce est trop petite pour que vous marchiez réellement oui. la distance que le personnage va marcher. Et si vous utilisez un système de joystick pour marcher, ben vous faites bouger un personnage alors que vous restez fixe debout dans le milieu de la pièce. Et ça, votre oreille interne, elle n'aime pas ça. Donc, de voir que l'on avance alors que notre corps ne bouge pas.
Okay.
Donc, c'est beaucoup plus complexe que ce que je pensais. Et de plus en plus, Louis, l'immersion, elle va être incroyable. On en a parlé parce que Flight Simulator va avoir une version oui, en réalité virtuelle oui. bientôt. Je t'ai envoyé un lien. Tu pourras magasiner ton casque aussi là, à partir de cet automne.
Oui, mais c'est cher. Le lien que tu m'as envoyé, il est 1 000$ le casque que j'ai regardé.
Louis, encore une fois, c'est quand la dernière fois que tu t'es gâté?
Ah, je sais. C'est quand j'ai acheté mon ordinateur.
Ben, c'est ça, c'est il n'y a pas si longtemps. Puis, probablement quand tu as acheté des leurres qui sont allés se pogner dans le fond du lac dans lequel je t'ai vu pêcher sur les médias sociaux.
En non, 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 ça, j'ai pris ça à mon frère, c'est moins cher. Bon, maintenant, le site, c'est quoi? C'est Mashable qui a publié ouais. une série de deepfakes?
Ah oui, écoutez, le deepfake, c'est l'hyper-trucage. On en a déjà parlé, Louis, et c'est vraiment trompe-l'œil. C'est-à-dire que on va utiliser des images, soit d'un politicien ou encore des images d'un oui. film, et on va simplement appliquer un masque d'un autre visage par-dessus la personne. Et le site Mashable a dit que a publié une espèce de top 13 des meilleurs hyper-trucages. Vous avez vu ça au Québec avec un jeune Bernard de Rome oui. Qui s'adressait justement dans une publicité au public en parlant d'une nouvelle loterie. C'est vraiment hallucinant. Vous allez voir, entre autres, Jim Carrey qui prend finalement la place, entre guillemets, de Jack Nicholson dans The Shining. Vous allez voir Donald Trump, en fait, le visage de Donald Trump sur une mini-miss. Vous savez, ces concours de beauté là, chez les jeunes enfants, complètement bizarres.
Oui.
Mais de voir la face de Donald Trump là-dessus, c'est encore plus décalé. On a utilisé le film Retour vers le futur, mais où on a changé le visage de Doc pour celui de Robert Downey Jr. On jurait que c'est Robert Downey Jr. dans le film. Le lien, je vous l'ai mis sur ma page Facebook, si jamais ça vous intéresse. Allez regarder ça, puis dites-moi lequel vous impressionne le plus, parce que voir Will Smith être dans le film La Matrice à la place de Keanu Reeves, c'est complètement bluffant. Et évidemment, j'avoue, j'ai eu un coup de cœur pour Home Alone, qui devient Home Stallone, où Macaulay Culkin est remplacé par le visage de Sylvester Stallone. Et il y a une espèce de petit côté Rambo dans les mauvais coups que fait Macaulay Culkin dans le film. C'est étonnant de voir que le travail de un ou quelques individus oui. arrive à nous tromper comme ça. Il va falloir se méfier même de la vidéo dans un avenir très rapproché, je vous le dis. Et ça, oui, ça fait rire, mais ça nous laisse aussi très perplexes. Et le top 13 que Mashable a fait, c'est complètement invraisemblable.
Et le co-créateur de la souris informatique est mort.
Hey, écoute, sais-tu en quelle année ça a été inventé? Ça, j'ai quand même fait le saut.
La souris, je sais pas, attends un peu. Moi, je dirais dans les années 70, peut-être.
63.
Ah oui, mon Dieu, ouais, mais on contrôlait quoi à l'époque?
Ben c'est ça, exactement. Il faut absolument voir les premiers micro-ordinateurs où on avait réfléchi comme ouais. ça à cette espèce de concept où on pouvait interagir différemment avec le micro-ordinateur. Évidemment, c'est dans les années 70 chez Xerox où on a mieux peaufiné le concept de souris avec la fameuse boule à l'intérieur là, ouais. qu'on devait nettoyer par moment. Mais le co-créateur de la souris informatique qui s'appelle William English. Et lui, très tôt, à la fin des années 50, il a travaillé dans le Stanford Research Institute avec Doug Engelbart, à qui on attribue la création de la souris, mais ils ont travaillé de façon tellement étroite que ça devient presque difficile dans le folklore de dire qui a réellement créé la souris. Mm-hmm. On ne peut jamais en fait affirmer que c'est le travail d'une seule personne, mais il a largement contribué à la mise au point, oui, de la souris, mais à l'ordinateur tel que on le conçoit aujourd'hui. Et il y a même, si vous aujourd'hui googlez William English, ouais. il y a une espèce de vidéo qui s'appelle, en français, c'est la mère de toutes les démonstrations. C'est une démonstration en noir et blanc d'un des premiers micro-ordinateurs. C'est complètement, on dirait, là, invraisemblable de voir que ce qu'on a aujourd'hui vient de ça, mais la souris a tellement changé la façon dont on interagit avec les ordinateurs que c'était impossible pour moi de passer sous silence le décès de cet homme qui a eu un impact énorme sur la micro-informatique. Ben oui. Et dites-vous que si la souris qu'il a imaginée ne ressemble en rien au petit pavé tactile que l'on a aujourd'hui sur nos ordinateurs portables, ben quand même, le concept vient de lui.
Merci, mon cher Mathieu. À demain.
À demain, Louis.
Salut.